Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous allons parler bientôt de la chute dans le catéchisme, mais malgré tout, il y a une... je ne sais pas comment nos auditeurs connaissent le catéchisme, s'ils le prennent quand nous avons notre échange, puisque nous l'avons entre les mains, puisque nous avons pris le parti d'entrer, de commenter le catéchisme, de discuter à partir de ce qui est le fond de notre foi. Mais donc dans les paragraphes du catéchisme, et nous sommes là dans la création de l'homme, paragraphe 6, création de l'homme, il y a à la fin d'un certain nombre d'articles du catéchisme, il y a les « en bref ». Et je vois le numéro 382 qui fait partie de ces « en bref », donc des petits résumés de ce qu'on a vu avant, mais qui ouvre des fois un peu plus. Et là, il y a quelque chose. Peut-être qu'il serait intéressant que nous en parlions un peu. La doctrine de la foi affirme que l'âme spirituelle est immortelle, est créé immédiatement par Dieu. L'enjeu n'est pas des moindres, en fait. Créé immédiatement par Dieu. Nous ne sommes pas dans le fruit de l'évolution. L'âme n'arrive pas au bout d'un moment. Il y aurait d'abord quelque chose de très, très, très animal, inanimé, plutôt, j'allais dire, et Dieu donnerait une âme à quelque chose qui n'en a pas. Créé immédiatement par Dieu, où nous emmène une telle affirmation ?
Eh bien, on peut prendre le mot « immédiatement » selon deux acceptions. « Immédiatement » peut signifier « sans médiation », c'est-à-dire c'est une intervention directe, ça n'est pas un démiurge intermédiaire qui, dans le fond... ferait que l'âme puisse être transmise. La pensée, chez les anciens, à l'époque de Tertullien, c'était la pensée commune que le Père transmettait l'âme à ses enfants. C'était une transmission, dans le fond, d'âme à âme. Et donc, non, il n'y a pas de démurge. Même l'homme ne peut pas être démurge par rapport à sa postérité, pour ce qui est de l'âme spirituelle. Tout le reste... L'Église dit, mais vous pouvez discuter, vous pouvez parler d'évolutionnisme, les pensées de Teilhard de Chardin doivent être rectifiées quand il oublie la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour tout le reste, ce sont des hypothèses qui continuent leur route. Et le pape Pie XII, dans Humanis Generis, ne met pas du tout de côté le fait qu'on est encore à réfléchir sur ces questions. La seule chose qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas imaginer un polygénisme, c'est-à-dire qu'il y ait des foyers humains qui aient pu naître au cours de la préhistoire et qui, petit à petit, auraient tendu vers des hominidés qui, dans certaines régions, auraient pu, par évolution, devenir des hommes et puis qui auraient marché un peu partout par une sorte de progrès nécessaire. Non, il a fallu une souche. Et cette souche a été choisie par Dieu. Dieu a donné son esprit immédiatement. C'est-à-dire, c'est une création ex nihilo qui bénéficie de tout ce qui est dit de la création. Ça ne veut pas dire une création continue, faites attention, parce que création continue pourrait laisser sous-entendre, voyez, qu'il y ait en Dieu des pas progressifs dans sa création. En fait, Dieu crée tout ex nihilo, y compris l'âme spirituelle. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, dit le catéchisme, c'est que c'est valable pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement valable globalement. Il n'y a pas de médiateur pour l'ensemble de l'humanité, mais il n'y a pas de médiateur pour chacun d'entre nous. Alors c'est extraordinaire parce que dès le sein de ma mère, dit le psaume, le Seigneur m'a conçu. Et c'est une chose magnifique de penser que Dieu, d'emblée, nous voit et nous donne une âme spirituelle. On comprend l'admiration que, à travers les récits des psaumes, combien, petit à petit, la conscience chrétienne a eu un regard élevé sur ce que l'on appelle l'embryon. L'embryon qui démarre avec une cellule masculine et une cellule féminine, une fois qu'elles sont unies, on parlait d'union dans une rencontre précédente, dès que cette union a lieu, eh bien, il y a quelque chose de très beau, puisque Dieu l'accompagne et donne immédiatement, sans délai de temps, une âme spirituelle. Au début du Moyen-Âge, on s'est posé la question, parce qu'Aristote pensait que l'âme venait par succession. Donc il y avait d'abord l'âme qui était la plus élémentaire, l'âme, je dirais, au niveau sensible, puis un petit végétal, je veux dire, d'abord, puis sensible au niveau des passions, et puis enfin l'âme spirituelle, à tel point que un jour, lorsque on avait demandé au moment de l'Assemblée nationale qui prévoyait la loi Veil en 1975, on avait demandé à un ecclésiastique de venir en parler. Et malheureusement, il n'a que développé la position de Aristote, reprise par saint Thomas d'Aquin, en disant « nous ne savons pas, puisque l'âme pourrait très bien ne venir qu'au bout d'un certain temps ». Et il n'avait pas lu ni Grégoire de Nazianze, ni saint Maxime le Confesseur, parce qu'à l'époque de saint Thomas d'Aquin, on ignorait ces textes qui disent exactement ce que dit aujourd'hui le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire l'âme spirituelle immortelle est créée immédiatement par Dieu. Et cela est redit par Pie XII dans Humani Generis, l'âme est créée immédiatement par Dieu, ça peut se comprendre comme étant, dès le premier instant de notre vie physique, eh bien, il y a déjà une présence de Dieu, une présence d'un don créé, qui fait que nous sommes à l'image et ressemblance de Dieu, dans une dimension nucléaire qui va se développer après, par la suite, jusqu'à ce que nous devenions une personne à part entière, mais on est déjà une personne dès le premier moment. Ce qui est terrible, c'est tous ceux qui développent l'idée épouvantable de dire n'est personne que celui qui est conscient de lui-même. Alors, le petit embryon, on ne sait pas, donc on peut très bien le supprimer, puisqu'il n'apparaît pas une personne. Et puis le vieillard, qui a perdu un peu conscience, on peut aussi le supprimer, puisqu'il ne communique plus, donc il n'apparaît plus être une personne, parce qu'ils définissent la personne comme étant seulement un lieu de relation avec autrui, un lieu de communication avec autrui. Quand quelqu'un ne communique plus, alors il ne serait plus une personne. Et d'ailleurs, il y a une horrible expression qui est utilisée par certains médecins qui disent « il est réduit à l'état végétatif
». C'est terrible.
C'est épouvantable, c'est-à-dire on nie la personne, alors on est tout prêt à le débrancher après. Mmh. Et donc du coup, on ne reconnaît pas la qualité d'image et ressemblance de Dieu. C'est pour cela que l'Église défend la vie du premier instant de la conception jusqu'à l'ultime instant dont nous disons nous n'avons pas la disposition de ce dernier instant. Il n'est pas entre nos mains. Nous devons absolument lutter contre le suicide et contre l'avortement. Nous devons lutter contre tout ce qui prend la vie d'une manière inique quand quelqu'un doit s'en remettre à Dieu qui est le Créateur, qui est celui qui donne à chacun cette âme spirituelle immortelle dont il est le possesseur. Je n'ai pas le droit de m'emparer du bien d'autrui. Et c'est Dieu qui le donne, donc je dois rester fidèle à ce don qui doit m'accompagner du premier instant jusqu'au dernier instant et m'en remettre à son infinie miséricorde qui veut mon bien, qui veut mon bonheur. Car nous parlions du bien commun dans un moment d'échange précédent. Le bien commun, c'est le bien-être, c'est le bien-vivre. Dieu veut mon bonheur. Le bonheur, c'est la clé supérieure d'interprétation des Écritures. Ça n'est pas rien que Jésus ait débuté ses grands sermons d'indication sur comment vivre en chrétien par les béatitudes, les neuf béatitudes. Nous avons avec les béatitudes le lieu même de la certitude de ce que Dieu veut pour nous, du projet que Dieu veut pour nous. Or, pour le petit embryon, dès les premiers instants, comme pour le vieillard qui n'est pas encore passé, je dirais, de l'autre côté, ad patrem, comme on disait, eh bien, il y a cette attente de Dieu de réaliser ce projet dans l'homme. Il est créé image et ressemblance de Dieu.
Frère Édouard, cette question est importante et donc je posais la question au départ de l'enjeu. Tu nous as très abondamment montré cette question qui agite beaucoup aujourd'hui et je veux imaginer que c'est sans mauvaise intention, j'espère en tout cas, sur à quel moment l'embryon est-il une âme. Et donc pour nous, dès la conception, tout est donné de ce qu'il relie à Dieu. Mais en termes de méthode, me vient une question. Tu disais que l'Église, à un certain moment, n'avait pas connaissance de la réflexion de Grégoire de Nazianze, par exemple, de saint Thomas d'Aquin, et donc dans la réflexion, les éléments n'y étaient pas. Ce qui montre que la théologie, c'est bien un travail progressif. On n'arrête pas de rechercher, de faire avancer.
Oui, la
et
raison.
On peut se tromper à un moment pour avancer après.
On peut très bien avoir des périodes moins éclairées. Et la raison continue à travailler. La raison, disait saint Augustin, est première du point de vue de la finalité, mais elle ne vient pas en premier dans le temps, c'est la foi qui est d'abord en premier. Tant que nous gardons la foi, je dirais, on est bien dans un bon sillage. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un magistère, que nous avons besoin de la parole de Dieu, que nous avons besoin de contreforts pour avancer. Et les pères de l'Église sont ceux qui engendrent cette capacité de l'homme non seulement à penser, mais aussi à croire.
Ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais juste avant que je t'interrompe là-dessus, c'est ne pas se tromper de fin. La fin, c'est bien le bonheur que Dieu veut donner, qui finalement nous garde dans une forme de prudence. Si on se trompe à un moment, on avance quand même vers quelque chose qui va nous tenir.
Exactement. Le fait que nous avancions vers le bonheur fait qu'on peut relativiser des moments d'errance, des moments d'incertitude. Et l'Église, très prudemment, ne dit pas que tout ce qu'elle enseigne est au même degré de magistère. On pourra le reprendre une autre fois, mais il y a au moins 3, voire 4 grands degrés du magistère de l'Église pour nous aider à voir clair et avancer dans la lumière vers la vérité tout entière.